On va déguster. Sur France Inter.
Estherelle Payani, après avoir été au sud du continent américain avec Alessandra, et ben on voyage avec vous au nord et on enfile sa doudoune.
Bah oui, parce que pour ce réveillon, moi j'ai mis le cap sur le Canada. Peut-être une association d'idées autour de la bûche, des bûcherons, tout ça. Ou alors ma passion pour le sirop d'érable que je vais enfin pouvoir laisser s'exprimer.
Et votre passion pour les chemises à carreaux aussi.
Aussi, comme ça j'étais dans le look qu'il fallait bien.
Passion pour les bûcherons, quoi.
Vous ne connaissez pas mon mari, Dominique. Et si en France on a donc Ginette Mathieu, les États-Unis ont Julia Child, est-ce que vous savez comment se nomme la grande dame de la cuisine québécoise?
Ah non, moi je donne ma langue au caribou.
Eh bien, vous avez gagné. Donc, c'est Jeanne Benoît, de son nom de naissance, Jeanne Patenaude. Hein, elle est l'autrice de l'Encyclopédie de la cuisine canadienne, une somme de 1200 pages, parue en 1963 et vendue à plus d'1,5 million d'exemplaires.
Ah oui, best-seller, quoi.
Il y en a une à peu près dans tous les foyers canadiens. Mais en fait, Jeanne Benoît a été bien plus que ça. Elle a eu une école de cuisine, elle a fait de la radio, de la télé, eu un resto. En fait, c'était une véritable pionnière de la pédagogie culinaire. Parce que Jeanne Benoît, c'est du sérieux. Elle était partie à Paris dans les années 20, étudiée au Cordon Bleu, et après, elle est partie faire de la chimie à la Sorbonne.
Wow.
Elle a même travaillé avec Édouard de Pomiane, scientifique fou de gastronomie, l'auteur de Bien manger pour bien vivre, qui a aussi animé des chroniques radio à la TSF. Mais à part la cuisine, son autre passion, c'était le théâtre. Elle était venue à Paris pour ça. Mais on l'a un peu chambrée à cause de son accent. Conclusion, de retour à Montréal, elle a eu la bonne idée de créer une école de cuisine bilingue, joliment nommée le Fumet de la Vieille France, qui a cartonné et formé plus de 8000 étudiants à partir de 1933.
Incroyable.
Elle a aussi créé en 1935 un restaurant 100% végétarien, The Salad Bar, à une époque où ça courait pas franchement les rues.
Donc chimiste, restauratrice, femme d'affaires, elle savait décidément tout faire.
Et c'est pas fini. Après la guerre, elle a commencé des chroniques à la radio, adaptées à la période de rationnement. Bah oui, il y a eu du rationnement au Canada jusqu'en 1947. On l'a ensuite retrouvée plusieurs fois par semaine sur Radio-Canada. Bah en gros, comme vous, François Régis. Hein. Mais dans l'émission Fémina. Pas tout à fait comme vous, je voulais dire. Donc. Ces chroniques, par contre, sont rassemblées à ce moment-là dans des ouvrages qui, eux aussi, ont un grand succès et lui valent de participer à des émissions culinaires aussi du côté anglophone, en Ontario. À ce moment-là, elle tombe amoureuse de Bernard Benoît, un de ses partenaires d'affaires de 13 ans plus jeune qu'elle. Et elle le suit à Paris au début des années 60. Et c'est là, à Paris, qu'elle commence l'écriture de sa Bible canadienne.
Une vie trépidante, et dans cet imposant ouvrage, alors on trouve quoi, Estherelle?
Quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Rassembler la cuisine du Canada et surtout du Québec avec toutes ses influences. Ce qu'elle dit dans la préface, c'est que la cuisine du Québec est donc de tradition française, mais d'inspiration canadienne. Et après, elle va citer les influences indiennes, et puis tout à fait à la fin, les influences anglaises, hein, qui viennent avec la cassonade, la mélasse et les épices. Mais dans ce colossal ouvrage, on trouve à manger et à boire, parce qu'il y a aussi des cocktails, mais il y a aussi les proportions nécessaires à prévoir pour nourrir 50 personnes, y compris pour le café, avec un peu de coquille d'œuf dedans, la méthode pour dépecer une carcasse de bœuf, des méthodes pour les conserves et les confitures, l'art de découper des gâteaux avec économie et élégance, des tableaux de cuisson. Mais pour les recettes, tiens, on va un peu jouer aux devinettes. Par exemple, il y a la recette du pâté chinois.
Waouh.
C'est quoi?
Pâté chinois?
C'est à base de poutine, non?
Non, c'est un hachis parmentier avec du blé d'Inde. Le blé d'Inde, c'est l'autre nom du maïs.
Ah oui.
Il y a aussi la recette du ragoût de pâte de cochon et boulettes. Ça, c'est une recette de Noël.
Ça, la pâte de cochon, ça pourrait être brésilien.
Oui, ça pourrait être brésilien, ouais. Mais avec la boulette, je sais pas.
Ouais.
C'est pas des pieds de porc qu'il y a dedans, contrairement à ce que moi je croyais quand on m'en servait. C'est des jarrets, la pâte de cochon.
Ah, d'accord.
Il y a aussi la recette de la cossetarde. Ouais.
Ah, ça doit venir de custard.
Yes, custard in English.
Donc
c'est de la crème anglaise.
Ouais.
La custard, c'est the custard en fait. Et il y a aussi des recettes du Sénégal, du Maroc. Ça va vraiment tous azimuts. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté très pragmatique et précis des recettes, hein, avec des mélanges un peu étonnants. Il y a une sauce pour les crêpes, jus d'orange plus beurre de cacahuète.
Wow.
Je demande à voir. Il y a aussi une trempette à l'indienne pour le repas de Noël. Pour le repas de Noël à base de crème sûre, donc de crème fraîche, de petits pots pour bébé au pois, de curry et de citron. Bon, donc s'il y a quelqu'un qui teste, vous me direz.
Le rationnement, finalement.
Et puis finalement, il y a surtout, comme chez Alessandra, le recours à des ingrédients très locaux. Par exemple, la fameuse recette d'écureuil mijoté au vin blanc. Ça, c'est vraiment 100% local et totalement durable.
Vous allez quand même pas cuisiner de l'écureuil,
Estherelle? Non, vous voyez, vous savez bien, c'est pas la saison ici, donc on n'est pas trouvés, ils sont pas assez gras.
Oups, sauvé.
Je me serais pas permis. J'ai plutôt choisi une recette québécoise de saison, tellement d'actualité. le pudding chômeur.
Ah.
Attention, hein, c'est pudding à la québécoise, ça s'écrit pudding, P-O-U-D-I-N-G.
Et rien à voir avec un pudding à l'anglo-saxonne d'ailleurs.
Du tout, parce que c'est pas une recette à base de pain rassis, mais un gâteau devenu populaire après la crise de 29 parce qu'il nécessitait pas beaucoup d'ingrédients. D'ailleurs, je vous propose de rappeler ça un pudding gréviste ou un pudding retraité. Hein, comme ça, ça marchera mieux, on va le franciser nous aussi. Donc c'était un ingrédient tout simple et dessus il y avait un sirop d'eau et de cassonade. Et la recette de Jeanne Benoît, elle était très fruste d'ailleurs, sans sirop d'érable qui était trop cher à l'époque. Elle mettait plutôt de la cassonade et du sirop de maïs. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai cherché la meilleure recette de pudding chômeur et tout le monde convergeait vers la recette servie au pied de cochon de Martin Picard, mais qui quand même, les femmes sont toujours la partie, elle viendrait de Caroline Dumas qui est elle-même restauratrice. Alors la recette, vous la retrouverez sur le site. C'est une couche d'une sorte de pâte à gâteau recouverte d'un fudge caramélisé indécent et comme on dit là-bas, c'est vraiment très cochon.
Avec ce qu'il faut en sirop d'érable, hein, ça explose en bouche. Une conserve complète,
c'est
délicieux.
Mais c'est pour 10 personnes. Un caractère
caramel au lait, un petit
peu. Oui, exactement, fudge. Ouais. Un peu même dulce de leche, on pourrait dire, si on veut rester en Amérique latine. Merci Estherel pour cette recette de pudding chômeur. Vous aimez ou pas, Alessandra?
Oui, c'est vraiment délicieux. Hein. C'est très bon. Ouais.
C'est moelleux.
Ah oui, c'est moelleux.
Caramélisé.
Caramélisé, et puis ce côté un peu rond, un peu rassurant, c'est une merveille.
Très sirop d'érable. On peut vraiment identifier la provenance de cette recette qui est donc signée de Jeanne Benoît, alors avec une petite coquetterie orthographique sur Jeanne. Hein.
Oui, ça s'écrit Jeanne, J-E-H-A-N-E. Elle était née en 1904 et morte en 1987.
Merci beaucoup, Estherel.